Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. 7h43, Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Ségolène Royal.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Le 10 mai n'est pas une date comme les autres depuis 1981. Et aujourd'hui donc, 10 mai 2017, c'est en effet le dernier Conseil des ministres du quinquennat Hollande. Il y aura de l'émotion tout à l'heure autour de la table à l'Élysée.
Oui, de l'émotion, de la concentration, mais aussi de la satisfaction, de la joie, parce que le nouveau président de la République, c'est un nouvel élan, c'est une bonne nouvelle hein, par rapport à tout ce qui était craint il y a encore quelques semaines. Donc c'est un jour très important, et d'ailleurs une semaine très importante, puisque c'est la semaine à la fois de la proclamation officielle des résultats aujourd'hui, oui. Et puis de la passation de pouvoir dimanche prochain.
Oui, en effet, dernière semaine très importante pour le président Hollande et le nouveau président élu. Revenons un instant sur ce conseil. C'est en général un exercice assez formel avec des règles à respecter. Est-ce que vous pensez que ce matin ce sera différent ? C'est la dernière occasion qu'ont les ministres, alors tous les ministres du gouvernement, un ministre, quel que soit leur portefeuille et leurs prérogatives, de se retrouver tous ensemble autour du président. Il va se passer quelque chose ?
Vous savez, un gouvernement, c'est aussi une équipe. Il y a beaucoup d'amitié, il y a de la très bonne entente dans cette équipe ministérielle. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, qui ai connu plusieurs gouvernements, il y a des gouvernements où il y a des tensions, il y a des compétitions. Je dois dire que l'ambiance dans ce gouvernement était bonne. Et puis, il y a énormément de concentration et énormément de travail aussi qui a été fait. Il y a du respect mutuel. Donc, c'est aussi voilà, un moment d'amitié.
Mais il y aura forcément un mot du président, par exemple.
Bien
il va s'adresser à cette équipe.
Oui. Bien sûr, il y a non seulement un mot du président.
Un mot d'adieu, un mot de
perspective. Et puis un bilan qui sera fait par le Premier ministre. Donc c'est à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Il y a encore quelques textes. Et puis surtout, une fois que le point sur la situation internationale est fait, comme tous les mercredis, il y aura le bilan du quinquennat fait par le Premier ministre.
Vous prendrez la parole pour vous adresser au président,
pas,
lui dire au revoir. Il délivrera un message politique, vous pensez?
Oui. Je le pense, oui.
Il s'est préparé à quitter le pouvoir après 5 ans. Est-ce que ça s'anticipe?
Oui, ça s'anticipe parce que c'est la démocratie. C'est la démocratie, donc c'est le fonctionnement même des institutions. Il a un grand respect pour le fonctionnement des institutions. Et puis
ça s'anticipe comment?
Alors écoutez, ça s'anticipe, il y a d'abord une dimension personnelle, j'imagine, hein, ça qui appartient à chacun. Et puis, il y a surtout l'organisation, la prise en compte aussi du bon transfert des institutions, ce qui a déjà été fait le 8 mai. Et puis, la continuité de l'État. On est tous au service de la France. Et c'est ça qui compte avant tout, c'est que les choses se passent bien. Nous savons aussi que nous sommes regardés sur la scène internationale, parce que c'est passé en France dans ces élections avec l'élection d'Emmanuel Macron, je crois, est apprécié quand on regarde la presse internationale, les réactions des chefs d'État et de gouvernement. Ce sont des réactions extrêmement positives. Donc c'est un point fort,
un sujet
positif pour la France, pour son économie aussi. Ça fait partie aussi de la dynamique économique, sociale, environnementale, que d'avoir des réactions très positives du monde entier.
Et c'est vrai qu'il l'a dit d'ailleurs, François Hollande, je préfère transmettre le pouvoir à un ancien ministre de mon gouvernement plutôt qu'à un opposant irréductible. C'est un soulagement.
Ou même qu'à l'extrême droite.
Oui, c'est ce qu'il voulait dire aussi, sans doute. C'est un soulagement, ça permet d'amoindrir, le fait de quitter ce quinquennat. Il a dit « je n'ai pas peur du vide », c'est ce qu'il aurait confié récemment. Il y a le vide après le pouvoir, c'est inévitable ?
Ça dépend, comment on exerce le pouvoir. Non, parce que la vie politique est faite d'événements, de ruptures, de reconquêtes. Ce n'est pas une trajectoire linéaire, la vie politique. Et par conséquent, on y est préparé quand on a l'expérience de cette vie politique.
Oui, enfin, quand on est président, on parle d'une hyperactivité, même quand on est ministre d'ailleurs, d'une vie où on ne s'appartient plus finalement, d'une certaine façon. L'atterrissage peut être compliqué.
Oui, mais vous savez, il faut regarder les choses au contraire de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est une chance extraordinaire d'avoir été président de la République ou d'avoir été ministre de la République. Ce n'est pas un droit acquis pour toute une vie. Donc c'est déjà une chance, je le répète, exceptionnelle.
Et pas de nostalgie, surtout
non,
pas.
Non, pas
au
de
contraire.
Nostalgie. Ouais. Quand on a le sentiment du devoir accompli, du travail fait, c'est même un bonheur de se dire, en tout cas, je parle pour moi, par exemple, donc je peux vous dire très très, très sincèrement ce que l'on ressent. Moi, ça fait 3 ans que je suis à la tête de ce ministère. Et là, j'ai un sentiment du devoir accompli, du travail bien fait. Hier, je réunissais tous les directeurs généraux, les directeurs du ministère qui étaient vraiment très heureux du travail qu'on avait fait ensemble. Les équipes sont contentes parce que là, on travaille encore jusqu'au bout. Demain, je vais à Bonn sur les négociations.
On va en parler tout à l'heure, c'est important.
Il y a encore des textes qui sont publiés au journal officiel. Donc, il ne faut pas jamais se sentir propriétaire du pouvoir. Ceux qui se sentent propriétaires du pouvoir, en effet, peuvent avoir de graves dépressions lorsqu'ils quittent ce pouvoir. J'en ai connu des ministres qui ont subi des dépressions.
Ce ne sera pas votre cas. Absolument vous êtes pas. Toujours au-delà. Il n'y aura pas de nostalgie chez François Hollande, à votre avis?
Je ne pense pas.
À la fin de ce quinquennat, le Front National a fait plus de 33% de voix au second tour de la présidentielle. Le Parti Socialiste est en lambeaux. Est-ce que politiquement, vous prenez collectivement votre part de responsabilité?
Mais bien sûr. Bien sûr, le Front National est très haut, donc c'est une vraie question.
Vous sentez responsable collectivement?
Mais on est tout, bien sûr. Bien sûr, on n'est pas indifférent ni étranger à la situation politique quand on exerce des responsabilités politiques. Donc la bonne posture, c'est à la fois d'analyser les raisons de ce vote. Il y a parfois de la colère, il y a de l'incompréhension dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a des catégories qui se sentent déclassées, qui se sentent déracinées. Il y a des gens qui ont peur de la mondialisation, qui ne comprennent pas le sens de la mondialisation.
Qu'est-ce qui n'a pas été fait pendant ce quinquennat qui conduisent à cette situation politique?
Je pense, si vous le permettez, qu'il faut poser la question différemment. Qu'est-ce qu'il convient de faire maintenant par rapport à la fois tout ce qui a été réussi dans ce quinquennat, tout ce qui a été inachevé dans ce quinquennat et tout ce qui n'a été pas fait dans ce quinquennat?
Donc pour savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir aussi ce qui a été éventuellement manqué. Qu'est-ce qui a manqué dans ce quinquennat?
Je pense que la bonne question, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux attentes des Français et surtout à la nouvelle situation économique, puisque chaque époque est différente de l'époque précédente. Aujourd'hui, nous entrons dans une époque où il va falloir reconstruire la dynamique européenne. Il y a eu beaucoup de doutes à l'égard de l'Europe, donc il faut lever ces doutes et faire en sorte que la dynamique européenne se remette d'aplomb. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron, ça va être une de ses priorités. Il y a déjà eu du travail qui a été fait pendant ce quinquennat pour repositionner l'Europe, et il reste du travail à faire. Il y a la question aussi de la mutation climatique. Je crois qu'il y a une question majeure parce qu'elle est liée à la question de la sécurité, à la question de la paix, à la question de l'équilibre dans le monde, notamment regard des pays les plus pauvres. Et si l'on veut mettre fin aux migrations massives et aux migrations de la misère, alors il faut résoudre le problème climatique et le problème d'accès à l'énergie des pays les plus pauvres.
Ça doit être une priorité pour Emmanuel
Macron. Et après, il y a
la
question sociale, qui est la question majeure, parce qu'aujourd'hui, le nouvel élan qui peut être donné, c'est une nouvelle croissance économique, notamment liée à la mutation énergétique, à la mutation, à la mutation numérique, par exemple. Donc, les nouvelles filières économiques, et ça qu'incarne fortement Emmanuel Macron, par rapport à sa capacité d'innovation et sa connaissance.
Je voudrais vous poser une question sur la méthode.
Et en même temps, les secteurs économiques à la traîne, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont en crise, et pour cela, il faut accélérer la mutation des territoires qui sont en souffrance.
À propos d'accélération, il y a un sujet qui agite déjà la gauche dans le débat, c'est la possibilité, ou en tout cas l'annonce d'Emmanuel Macron, de réformer le Code du travail par ordonnance. Ça fracture déjà, le Parti Socialiste s'y oppose. Il a promis de recevoir vite les syndicats, mais il veut aussi aller vite. Vous lui conseillez quoi? La prudence ou l'efficacité au nom de laquelle il veut gouverner par ordonnance sur ce sujet?
Je pense qu'il ne faut pas anticiper les choses. Le gouvernement n'est toujours pas en place, donc un Premier ministre sera nommé la semaine prochaine, un gouvernement sera mis en place, il appartiendra à ce gouvernement et au nouveau président de la République de définir à la fois les objectifs et en même temps les méthodes. Ce que je sais, ce que je peux vous dire moi d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention de brutaliser les Français. Comme nous tous, il a été choqué par l'usage du 49-3 par le gouvernement précédent, donc ça ne sera pas sa méthode, ça je puis vous le dire. Il sait parfaitement, comme il l'a dit dans sa campagne et dans ses interventions, que la France a besoin d'apaisement, de rassemblement. Et justement parce qu'il casse les codes traditionnels des oppositions brutales entre la droite et la gauche, c'est précisément pour faire émerger des solutions de consensus qui font en sorte que lorsque les Français adhèrent à une solution et la comprennent, à ce moment-là, la croissance économique revient.
Il ne sera pas brutal. C'est un conseil que vous lui donnez ce matin ou vous
non,
le savez, il vous
conseil.
L'a dit, il vous a promis et qu'effectivement...
Vous le connaissez. Je le connais puisque j'étais avec lui pendant 3 ans au gouvernement ou quand il était à l'Élysée puis ministre. ministre, et nous avons beaucoup travaillé ensemble sur les questions justement industrielles, la nouvelle industrie, notamment la croissance verte. Et je puis vous dire que ce ne sera pas
sa méthode. Le renouvellement est en marche, donc après cette élection, il doit absolument rester dans cette logique. Par exemple, ça doit être un critère décisif pour choisir son gouvernement, le renouvellement, choisir des hommes qui n'apparaissent pas comme trop expérimentés.
C'est ce qu'il a dit, en tout cas, et je crois que c'est une attente, il y a un besoin de renouvellement. D'ailleurs, son élection elle-même prouve qu'il y a une attente de renouvellement, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un rejet systématique du passé. Voilà, il y a l'arrivée aux responsabilités d'une nouvelle génération, et c'est une bonne chose.
Est-ce que Manuel Valls a raison de se présenter sous la bannière La République en marche pour les législatives ?
Écoutez, ça ne me concerne pas. Ce que je regrette, c'est que cette polémique surgisse dans une semaine cruciale pour les institutions. Et c'est trop tôt. Donc je pense qu'il aurait fallu attendre un peu avant de lancer ces polémiques. Aujourd'hui, nous en sommes dans la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle. Dimanche, il y a la passation de pouvoir. Nous sommes donc regardés par le monde entier. Quand je regarde une des journaux ce matin, il y a une forme de dégradation brutale du débat politique avec ces disputes sur les étiquettes. Et je pense que Manuel Valls aurait dû attendre un peu avant de polluer une semaine extrêmement importante qui est regardée dans le monde entier et qui fait la fierté de la France.
Encore deux questions avant qu'on se quitte, si je puis dire. Vous-même, vous avez renoncé à vous présenter aux législatives. Vous passez à autre chose. Vous voudriez contribuer au quinquennat d'Emmanuel Macron.
Écoutez, et là aussi, on verra le moment venu.
Enfin, vous avez plutôt envie.
Le moment venu. Mais
c'est quelqu'un que vous connaissez.
Vous savez, je crois qu'il faut faire très attention à ce bal des égos. Et l'objectif aujourd'hui, c'est pas parler de soi. Nous sommes tournés vers la France, vers son avenir, vers la valorisation à la fois de ce qui a été fait, vers la continuité et vers l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de France avec le nouveau président de la République.
Et c'est pour ça que vous allez demain et après-demain à Bonn.
Exactement,
l'accord de Paris qui continue, est toujours menacé par les Américains.
Je vais présenter justement ce manifeste pour une justice climatique.
C'est votre livre chez Plomb, Manifeste pour une justice climatique. Vous pouvez agir, c'est signé Ségolène Royal qui jusqu'au bout agira puisque vous serez à Bonn pour essayer de sauver cette COP21 à laquelle vous avez contribué. Merci d'avoir
beaucoup.
Été avec nous ce matin dans ce studio.
Une Ségolène Royal bien en marche et qui évoque d'emblée l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Pas de nostalgie, mais le sentiment du devoir accompli, nous a dit la ministre de l'écologie. Sur le front social, Emmanuel Macron n'a pas l'intention d'être brutal. Merci beaucoup à l'une et à l'autre. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.